Parce que dans le temps de l'Avent, Jean-Baptiste joue un rôle si important. On ne quitte pas notre préparation à Noël en voyant ce que Saint Jean nous dit sur celui qui a été son premier maître. C'est beau d'essayer de comprendre Jean-Baptiste dans la lumière de Jean l'Évangéliste. Le plus petit dans le royaume de Dieu passe avant. Il doit penser à Jésus en disant ça. C'est pas que Jean l'Évangéliste est le plus petit, mais il est quand même le plus petit. Ce qu'il a été donné à Marie comme enfant, il est tout petit à la croix. Il prend la place de l'enfant Jésus. La toute petitesse de Jean à la croix, c'est une nativité. Alors c'est très beau de voir la manière dont Jean regarde à garder dans son cœur l'image vivante du précurseur. Immédiatement après le prologue, qui nous met dans la grande contemplation du Verbe, et dans la lumière du Verbe, le mystère du Père, le mystère de la création, le mystère de l'économie divine, dans la miséricorde de l'économie divine, toutes les grandes alliances, les trois alliances du Verbe, on nous montre tout de suite sur la terre le rôle de Jean-Baptiste. Vous voyez, il y a deux visages de Jean-Baptiste. Hein? Le visage de Jean-Baptiste dans la vision du prologue et le visage de Jean-Baptiste dans la vision de la réalisation concrète. Qu'est-ce que c'est que Jean-Baptiste? Comment Jean-Baptiste vit-il? Le ti esti et le pos, hein? Faut pas l'oublier. C'était des distinctions, des clés qui nous aident à comprendre l'Écriture. Parce que l'Écriture ne modifie pas le conditionnement de notre intelligence. Or, il est évident que dans le prologue, c'est la vision du ti esti. Qu'est-ce que c'est que Jean-Baptiste? Et on nous donne cette vision de Jean-Baptiste. L'envoyé. Et puis ici, on nous montre comment cet envoyé vit-il. Il vit au désert. Toute l'ancienne alliance se termine au désert. C'est très vrai, elle se termine au désert. C'est pour ça que Bethléem est au désert. Hein, faut pas oublier. Pas de place pour eux à l'hôtellerie. Et donc, ils sont obligés d'aller au désert. Très curieux de voir cela. Alors vous avez le désert de la naissance de Jésus, le désert de Jean-Baptiste qui annonce le mystère de l'agneau. Mais ces deux déserts sont pour nous très éloquents pour comprendre le cœur de Marie. C'est le désert intérieur. Parce que ce qui est vu de l'extérieur est signe divin, symbole de quelque chose de beaucoup plus intérieur. Et ce quelque chose de beaucoup plus intérieur, c'est le cœur de Marie. Le cœur de Marie, c'est la grotte. Hein. Il n'y a plus de place pour eux à l'hôtellerie. Et c'est vrai que d'une certaine manière, il n'y a plus de place pour Marie dans l'humanité. Elle est l'Immaculée, hors série. Et les hommes n'aiment pas les hors-séries. Elle est en dehors, en tant qu'immaculée. Elle est complètement mise en dehors. Et c'est vrai que dans la vie apostolique, on verra combien Marie est présente, mais toujours comme le désert. Alors ça, c'est Jean-Baptiste qui nous annonce cela, qui nous montre cela. Nous avons donc ce que nous avions commencé la dernière fois à voir, et que nous allons continuer maintenant, cette visite canonique des autorités qui sont à Jérusalem. Les Juifs envoyèrent des prêtres et des Lévites, donc ces Juifs, c'est nécessairement les autorités de Jérusalem. Pour envoyer des prêtres et des Lévites, c'est pas n'importe qui, c'est le Sanhédrin. C'est l'autorité. On est inquiet à Jérusalem, on est inquiet en haut lieu, on est inquiet de ce qui se passe au désert. Alors, qu'est-ce qui se passe au désert? On va interroger celui qui attire les foules. On va l'interroger dans le souci de découvrir son autorité. C'est ça qui inquiète les autorités. C'est d'autres autorités rivales. Or, on s'aperçoit en premier lieu que Jean-Baptiste n'est aucune autorité. C'est extraordinaire de voir ça. Ça, on n'avait pas prévu le coup. Comment voulez-vous que les autorités puissent prévoir qu'il y a autre chose que l'autorité ? Quand on est inféodé dans l'autorité, on ne voit qu'une seule chose, c'est l'autorité. C'est très extraordinaire de voir ça. Si on essaie de comprendre comment l'Esprit Saint reprend tout au-delà de l'autorité. L'Ancien Testament est très construit sur l'autorité. Et ce qui achève l'Ancien Testament, sous le souffle de l'Esprit Saint, c'est Jean-Baptiste, qui est au-delà de l'autorité. Tout est repris par le souffle d'amour. Alors, quand Jean-Baptiste dit qu'il n'est ni le Messie, ni Élie, ni le prophète, qui es-tu ? Parce que c'est la première chose qu'on voulait savoir. Qui es-tu ? Que nous rendions réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même ? C'est curieux, hein ? Ce qui intéressait en premier lieu, c'était l'autorité. S'il n'est aucune autorité, alors on va s'intéresser à sa propre personne. Que dis-tu de toi-même ? Il déclara, « Je suis la voix de celui qui clame dans le désert, redresser le chemin du Seigneur, selon ce qu'a dit Isaïe le prophète. » Il y a dû avoir un grand silence hein, quand on a posé la question à Jean-Baptiste « Que dis-tu de toi-même » parce que je crois que Jean-Baptiste ne s'est jamais posé la question. Ça, c'est le pauvre. Le pauvre ne se pose pas la question de savoir ce qu'il est. Le pauvre, ça n'intéresse pas de savoir ce qu'il est. Et donc, quand on lui pose « Que dis-tu de toi-même » il y a un grand silence. Jean-Baptiste doit répondre. Et c'est l'Esprit-Saint qui l'éclaire à ce moment-là. Et qui l'éclaire de cette manière qu'il se met derrière l'autorité d'Isaïe. C'est Isaïe qui répond à travers lui et pour lui. Je suis la voix de celui qui clame dans le désert. Donc, il est la voix de celui qui clame dans le désert. Vous voyez, l'union très grande entre Jean-Baptiste et l'Esprit-Saint. Comme il y a une très grande union entre Marie et l'Esprit-Saint. Je suis l'Immaculée Conception. Je suis la voix de celui qui clame dans le désert. Redresser le chemin du Seigneur. Je crois qu'il y a un parallélisme qu'on peut faire. Parce que ce sont les deux grands pauvres. Celui qui achève toute la grande attente de l'Ancien Testament et celle qui reprend tout. Alors, Jean-Baptiste, il est lié à l'Esprit-Saint. Il est la voix. Dans l'évangile de Saint Jean, l'Esprit-Saint, c'est toujours la voix. C'est pour ça qu'il y a ce lien entre Jean-Baptiste et l'Esprit-Saint. Je suis la voix de celui qui clame dans le désert. Celui qui crie dans le désert. Il n'est que cela. Jean-Baptiste ne vient pas enseigner. Il n'est plus temps. Il est celui qui clame dans le désert. Il est un cri. C'est le cri de l'enfant dans le désert. Celui qui est mu par l'Esprit Saint. Quand on est mu par l'Esprit Saint, on est toujours un tout petit. Parce que l'Esprit Saint fait de nous des pauvres. Et c'est par la pauvreté qu'on est un tout petit. Et c'est dans la pauvreté qu'on ne se regarde plus. C'est le propre du pauvre, hein, de ne plus se regarder. Et d'être uniquement mu par l'Esprit. Et d'être uniquement cette voix qui crie dans le désert. Quand on est très pauvre, on est toujours dans le désert. Parce que quand on est très pauvre, on n'a plus de possibilité de dialogue. Celui qui dialogue, il n'est pas pauvre. Celui qui dialogue, il n'est pas dans le désert. Tandis que celui qui est très pauvre, il est uniquement un cri. Il aime, puisque la pauvreté divine provient de l'amour. Mais il a soif, il crie. Il n'est plus que le cri. Parce qu'il aime et il ne possède rien. C'est le propre du pauvre. C'est d'aimer et de ne rien posséder, de ne rien avoir à lui. Et donc d'être uniquement la voix de celui qui crie dans le désert. Alors c'est là où il faut comprendre l'abîme de pauvreté de Jean-Baptiste. Hein. Et c'est l'Esprit-Saint qui creuse cet abîme. Celui qui n'a rien. Celui qui ne sait plus rien. Qui ne sait plus qu'une seule chose. Une seule chose. C'est la proximité de celui qui doit venir. Redresser le chemin du Seigneur. Alors, redresser le chemin du Seigneur, c'est justement le fait qu'il faut préparer la venue de celui qui doit venir. Et ça, c'est le pauvre. Le pauvre, il vit uniquement d'espérance. L'espérance maintient la pauvreté. Et j'allais presque dire que l'espérance réalise une pauvreté toujours plus grande. Parce que l'espérance, c'est celui qui ne possède pas. C'est celui qui est tendu vers. C'est le désir. Et le désir exprime l'amour et la non-possession. Et c'est parce que justement le désir exprime l'amour et la non-possession que le désir exprime bien l'attitude du pauvre. Il n'est plus que la voix de celui qui crie dans le désert. Mais c'est pour exprimer justement cette très grande solitude de Jean-Baptiste. Personne n'a un amour aussi fort que lui. Personne n'a une pauvreté aussi grande que lui. Et donc, il est seul. Il est le désert de Dieu. Il est le désert de l'agneau. C'est le désert de l'agneau. C'est l'agneau qui va venir, qui va répondre à son cri. Et donc, il est bien le désert de l'agneau. Et lui, il n'est qu'attente. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Redresser le chemin du Seigneur. Il n'a qu'un seul désir, c'est d'être uniquement celui qui est attente de celui qui doit venir. Et les envoyés étaient des pharisiens. Alors vous savez que cette petite phrase, elle est intraduisible. On peut dire aussi bien « et les envoyés étaient des pharisiens » ou « les envoyés venaient des pharisiens, étaient envoyés des pharisiens ». C'est l'un ou l'autre. Il y a les pharisiens qui sont mêlés à ça. Et c'est très curieux de voir que la pauvreté de Jean-Baptiste est un contraste avec les pharisiens. Et je crois que c'est ça qui nous est montré. Les envoyés étaient envoyés par les pharisiens ou ils étaient des pharisiens. Alors, c'est nous montrer le contraste. Je crois le contraste du pauvre à l'égard de ceux qui sont contents d'eux-mêmes. Les pharisiens, ce sont ceux qui sont satisfaits. C'est l'autosatisfaction, les pharisiens. Tu vois? Dès que vous êtes dans l'autosatisfaction, il y a un petit bout de pharisien qui pousse. Et Jean-Baptiste, dans sa pauvreté, c'est justement la, faire que tout l'autosatisfaction disparaisse. C'est l'œuvre de l'Esprit-Saint, ça, de faire disparaître en nous toute satisfaction. Alors à ce moment-là, on devient le pauvre. Ils l'interrogèrent et lui dirent, « Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Ad modum recipiendi, hein, le mode du récipient. Là, on voit tout à fait la capacité du récipient. On voit exactement ce que ces envoyés, qui étaient des pharisiens, parmi lesquels il y avait des pharisiens, ses lévites et ses prêtres, ce qu'ils ont retenu de Jean-Baptiste, ils n'ont retenu qu'une seule chose, qui n'avait aucune autorité. Parce que c'était la seule chose qu'ils étaient capables de comprendre. Quand Jean-Baptiste dit qu'il est la voix de celui qui crie dans le désert, ils sont incapables de comprendre cela. Ils ne peuvent pas comprendre ça. Ça, c'est un autre monde. C'est un monde complètement en dehors d'eux. Les pharisiens ne comprennent que l'autorité. C'est terrible. Parce qu'alors, à ce moment-là, ils ne comprennent plus ce que c'est que la voix de celui qui crie dans le désert. Ce qui vient de l'Esprit Saint. Mais il y a les choses qui sont de l'institution, et les choses qui sont au-delà de l'institution. C'est toujours comme ça. Il ne faut pas les opposer, du reste. Hein. Il ne faut pas les opposer. C'est le démon qui les oppose. On ne doit pas les opposer. Mais il y a toujours les deux choses. Il y a l'autorité, et puis il y a ceux qui sont mus par l'Esprit-Saint. Sans aucune autorité. Et qui vont plus loin, parce qu'ils sont mus par l'Esprit-Saint. Alors c'est la voix de celui qui crie dans le désert. Et puis il y a l'autorité. Il y a les deux choses. Alors les pharisiens ne comprennent que l'autorité et ne peuvent comprendre que cela. Ils n'ont rien retenu de ce qu'ils disaient quand ils disaient la voix de celui qui criait dans le désert, parce que s'ils avaient compris ça, ils n'auraient pas demandé « Pourquoi donc baptises-tu » Ils baptisent justement parce qu'il est la voix de celui qui crie dans le désert. Alors ils baptisent dans la pénitence. Et le baptême de pénitence, c'est redresser les chemins du Seigneur. C'est d'enlever toute espèce de malice, redresser les chemins du Seigneur, enlever les montagnes, enlever tout orgueil, enlever toute vanité, tout orgueil. C'est ça, ils baptisent pour cela, celui qui est mu par l'Esprit Saint. Et c'est un baptême dans l'Esprit Saint. Pourquoi un baptême dans l'eau, mais qui est dans l'Esprit Saint, plus exactement, c'est un baptême dans l'eau pour préparer la voie. Pour préparer celui qui la voit, le chemin de celui qui doit venir. Ils l'interrogèrent et lui dirent, « Pourquoi donc baptises-tu, si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Je crois que ça, ils se dénoncent eux-mêmes, là. On voit très bien ce qu'ils sont, ces envoyés. Parce que on se dévoile en fonction de ce qu'on comprend. Or, ils ne comprennent qu'une seule chose, les trois négations. Et les trois négations qui portent sur l'autorité. Le reste, ils ne comprennent pas. Ils ne saisissent pas le reste. Alors, on comprend très bien. Pourquoi donc baptises-tu, si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète ? Mais c'est un dialogue de sourds. Hein, entre ceux qui viennent de Jérusalem, qui sont donc inféodés à l'autorité et qui ne comprennent que l'autorité. Et puis Jean-Baptiste, mu par l'Esprit. Je trouve ça extraordinaire, hein, comme fin de l'ancienne alliance. Cette espèce d'opposition entre celui qui est mu par l'Esprit Saint, qui n'a aucune autorité, et ceux qui sont conscients de leur autorité. J'allais dire super conscient de leur autorité, et qui juge, et qui mesure celui qui est mu par l'Esprit Saint. Jean leur répondit, « Moi, je baptise dans l'eau. » On voit qu'il est un peu de mauvaise humeur à la fin. Enfin, il y a de quoi. On voit très bien ça. Ce pauvre, quand un pauvre se met en colère, il se met en colère. Il n'a rien à perdre, alors ça n'a pas d'importance. « Moi, je baptise dans l'eau. Au milieu de vous se tient quelqu'un que vous ne connaissez pas. » Se tient quelqu'un, comme Marie se tient au pied de la croix. Stabat, c'est la même chose, hein, et comme Jean-Baptiste se tient au désert. Au milieu de vous, donc au milieu de vous, se tient quelqu'un que vous ne connaissez pas. Vous voyez que ici, ce n'est plus les autres qui interrogent, c'est Jean-Baptiste qui leur fait une correction fraternelle. Et la correction fraternelle la plus forte qui soit. La correction fraternelle la plus forte qui soit, c'est de leur montrer leur ignorance. Ils sont satisfaits d'eux-mêmes. On est satisfait de soi-même quand on connaît. Et quand on a conscience qu'on connaît, qu'on sait bien ce qui se passe, eh bien Jean-Baptiste leur montre qu'ils ne savent rien. Lui qui est au désert, il leur donne une leçon. Au milieu de vous, se tient quelqu'un que vous ne connaissez pas, celui qui vient après moi, et je ne suis pas digne, moi, de délier la courroie de ses chaussures. Vous vous êtes complètement trompé en venant auprès de moi. Parce que, au milieu de vous, il y a quelqu'un. Quelqu'un que vous ne connaissez pas. Vous êtes des aveugles. Et vous croyez connaître, et vous voulez diriger les autres, et vous êtes des aveugles. C'est très très fort, hein, la leçon de Jean-Baptiste, par rapport à ces pharisiens, à ces prêtres et ces lévites. Il leur annonce ce pourquoi il est là au désert. Au milieu de vous se tient quelqu'un que vous ne connaissez pas, celui qui vient après moi, et je ne suis pas digne, moi, de délier la courroie de ses chaussures. Cela se passa à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Normalement, ses lévites et ses prêtres auraient dû demander le baptême d'eau pour que les écailles tombent de leurs yeux et pour qu'ils voient. Or, ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Ils n'ont rien compris. Ils sont retournés à Jérusalem sans rien comprendre. Je crois que ça a été pour Jean-Baptiste la chose la plus terrible, de voir l'inefficacité de son témoignage auprès de ses lévites et ses prêtres. Si ses lévites et ses prêtres, qui venaient de Jérusalem, mandatés par les pharisiens, mandatés par le Sanhédrin, si ses lévites et ses prêtres auraient compris le témoignage de Jean-Baptiste, s'ils avaient demandé le baptême d'eau, si leurs yeux s'étaient ouverts, il serait retourné à Jérusalem en disant qu'il y a quelque chose d'extraordinaire au désert. Il y a un prophète qui voit. Il n'a pas d'autorité. Un prophète n'a pas d'autorité. Il est mu par Saint-Esprit. Cet homme qui est le plus pauvre de tous, pauvreté spirituelle, pauvreté intérieure, s'ils avaient compris cela, alors, à ce moment-là, tout aurait changé. Vous voyez, Jean est très sensible à cela. Parce que, au fond, la grande interrogation de Jean, comment se fait-il que le peuple d'Israël n'ait pas reçu le Messie? Ça, c'est la grande interrogation de Jean. Comment se fait-il que le peuple d'Israël n'ait pas reçu le Messie? Eh bien, il voit là le premier moment du refus. Et le premier moment du refus, ce sont ces envoyés qui viennent de Jérusalem, ces lévites et ces prêtres, qui sont des lévites et des prêtres, qui ont donc une instruction un peu plus que les autres, qui sont des pharisiens, et donc des gens très bien. Parce que les pharisiens ont conscience qu'ils sont bien, et ils le sont. Ce sont des gens bien. Mais ce qu'on dit habituellement, des gens bien au point de vue religieux, et qui ont conscience qu'ils sont bien. Si ces lévites et ces prêtres avaient reçu le baptême de Jean-Baptiste, tout aurait changé. Il suffit de très peu de choses, des moments de crise. Hein. On sait très bien des moments de crise. Il ne faut pas faire trop d'analogies avec des choses d'ordre politique, mais on sait très bien que dans les moments de crise, il suffit très peu de choses pour que on voit ou qu'on ne voit pas. Et qu'on maintienne alors, on reste dans les ténèbres. On garde son point de vue. Il y a un moment où il y a un aiguillage. Quand on est sur la crête, Jean-Baptiste, il est sur la crête. Baptême d'eau. Et là, on voit d'une façon très étonnante, hein, c'est magnifiquement dit, ça. Ça, c'est bien l'artiste divin qui est l'Esprit Saint qui nous fait comprendre les deux manières d'attendre le Messie. Il y a deux manières d'attendre le Messie. Il y a la manière du pauvre, Jean-Baptiste, et la manière des Lévites et des prêtres, ceux qui sont à Jérusalem. Ceux qui sont à Jérusalem attendent le Messie, on le sait bien. Au moment des mages, quand les mages sont passés, tout Jérusalem s'est mis à trembler. Et les mages ont fait leur petite enquête. Et on les a envoyés auprès des théologiens. Donc on les a envoyés auprès du Sanhédrin, auprès des docteurs en Israël. Il y a 30 ans de ça, à peu près. Il y a 30 ans de ça. Et ils ont continué d'attendre. Il y a eu Hérode entre deux, c'est très bien. Il y a eu le massacre des saints innocents. Chose passée, c'est passé. Et les théologiens, peut-être, auraient dû garder dans leur cœur cette petite lumière du passage des marges. Et toi, Bethléem, ils ont remué cela. Ils ont vu cela. Et toi, Bethléem, ils se sont rappelés cette chose étonnante qui était dite sur Bethléem. Puis il y a eu le massacre des saints innocents. Puis de nouveau, il y a le désert qui fleurit avec Jean-Baptiste. Alors on envoie ces lévites et ces prêtres pour savoir. Et ces lévites et ces prêtres ne comprennent rien à Jean-Baptiste. Rien du tout. En dehors des catégories. Non, absolument. C'est ça. En dehors des catégories habituelles, normales. Oui, on se fait comme ça, ses propres manières de regarder. Il n'est ni le Messie, ni Élie, ni le prophète. Trois grandes catégories. C'est pas si mal du reste. C'est intelligent quand même. Oui, c'est intelligent. Les pharisiens sont intelligents. Ces lévites et ces prêtres sont intelligents. Mais ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas celui qui est la voix de celui qui crie dans le désert. Ce qu'a dit Isaïe. Donc ils devraient comprendre quand même. Hein. Jean-Baptiste se met derrière Isaïe. Et donc, s'il se met derrière Isaïe, c'est un classique. Il n'y a rien de plus classique qu'Isaïe. Parmi les grands prophètes, c'est le prophète le plus intelligent et le plus doctrinal. Jean-Baptiste, qui est le fou des fous, hein, de l'Esprit Saint. Ça, c'est absolument, Jean-Baptiste, c'est extraordinaire. C'est quand même quelqu'un d'une taille très extraordinaire. Mais sans doctrine, Jean-Baptiste. Il était au désert, il est resté au désert, mais il s'est nourri d'Isaïe. Et il se met derrière Isaïe, parce qu'il sait qu'Isaïe est une autorité quand même. Hein. Et donc quand Jean-Baptiste se met derrière Isaïe et qui se revêt du manteau d'Isaïe, « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert, redressez les chemins du Seigneur selon ce qu'a dit Isaïe le prophète. » Donc il n'apparaît plus du tout comme un fou. Il se met derrière le prophète et ils ne comprennent rien. Rien du tout. Pourquoi ? Parce qu'ils attendent le Messie comme celui qui doit venir confirmer ce qu'ils sont. Confirmer la loi. C'est comme ça qu'ils attendent le Messie. celui qui doit venir confirmer la loi, confirmer les grands prêtres. C'est très étonnant cela, en continuité avec ce qu'ils vivent. Ils ne peuvent comprendre que cela, ce qui est en continuité, on dirait aujourd'hui, avec leur méthode. Et ce qui vient confirmer leur méthode, confirmer leur réflexion théologique, confirmer ce qu'ils vivent à Jérusalem. Et puis, il y a celui qui attend le Messie à la manière de Jean-Baptiste. C'est-à-dire comme un pauvre qui n'a rien. Le Messie ne vient pas confirmer le pauvre. S'il n'y a rien, la voix de celui qui crie dans le désert. Alors il attend le Messie comme le Sauveur, comme celui qui doit tout reprendre, comme celui qui est l'unique qu'on attend. Je crois que c'est très important de comprendre ça, parce que ça nous fait comprendre les deux dimensions, voyez, de l'espérance eschatologique. Que nous devons vivre, hein. Nous devons vivre l'espérance eschatologique. Alors on peut la vivre à la manière des lévites et des prêtres, à la manière des pharisiens, à la manière de ceux qui sont à Jérusalem. C'est vrai, certains vivent l'espérance eschatologique comme ça. Tout le monde est d'accord qu'il faut vivre cette espérance eschatologique, l'attente du retour du Christ. Tout le monde est d'accord là-dessus. Tous les théologiens sont d'accord. Mais on peut vivre cette espérance eschatologique à la manière des lévites et des prêtres, de ceux qui viennent auprès de Jean-Baptiste, en l'interrogeant, où on peut vivre l'espérance eschatologique à la manière de Jean-Baptiste. Et vivre l'espérance eschatologique à la manière de Jean-Baptiste, c'est de comprendre que celui qu'on attend, ce n'est pas pour confirmer ce qu'on vit, mais c'est celui qui reprend tout, qui est au-delà de la loi et qui ne vient pas seulement confirmer la loi, qui est au-delà de la loi, qui est vraiment le Sauveur. Je crois que c'est très important, vous voyez, il y a là quelque chose qui nous est montré avec une très grande netteté et puis qui est décrit admirablement. Hein. C'est dessiné avec une force quand on voit ce tableau, hein. Quand on voit le tableau de Jean-Baptiste au désert et puis c'est Lévite et ses prêtres. Qu'on voit ce que portent les uns, ils n'ont qu'un seul souci, c'est donner une réponse qui leur permet d'avoir de l'avancement. Visite canonique. Leur donner de l'avancement, leur permettre d'avoir un galon supérieur. Hein? Alors c'est ça leur désir, c'est ça leur intention. Faire bien leur mission, bien leur devoir, ils sont honnêtes. Honnêtes comme de bons pharisiens. Contents d'eux-mêmes, satisfaits d'eux-mêmes. On sait bien ce que Jean-Baptiste a dit aux pharisiens. Race de vipères. C'est ça d'extraordinaire, ça. C'est, Jean-Baptiste, il est libre, il est absolument libre. Alors, il peut dire ouvertement ce qu'il en est. Alors, on voit très bien ceux qui attendent à la manière de ses lévites et de ses prêtres, et puis à la manière de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il est l'enfant de l'Esprit-Saint. De façon étonnante, il est le pauvre. Alors, il est l'enfant de l'Esprit-Saint. Jean-Baptiste ne s'oppose pas pour le plaisir de s'opposer, hein, pas du tout. Ce n'est pas un anti-pharisien. Non, 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 non. Il est libre. Alors, il sait très bien qu'il n'a qu'une seule chose à faire, c'est le baptême dans l'eau. Moi, je baptise dans l'eau. Il est là uniquement en attente. Au milieu de vous se tient quelqu'un que vous ne connaissez pas. Jean-Baptiste sait. Voilà tout ce qu'il sait. Il y a quelqu'un. Et c'est ce quelqu'un qu'on attend. Et c'est ce quelqu'un qui est le Sauveur. Le reste, ça n'a pas d'importance. Mais je crois que là, nous saisissons bien comment les uns, satisfaits d'eux-mêmes, sont incapables de découvrir ce quelqu'un. Et comment Jean-Baptiste, qui est le pauvre, lui, va le découvrir. Et c'est vrai, quand on est replié sur soi-même et satisfait de soi, on ne peut pas aller au-delà de nous-mêmes. Alors, le propre du prophète, c'est de découvrir quelqu'un qui est au-delà de soi. L'espérance eschatologique, c'est ça. L'espérance de Jean-Baptiste, c'est de découvrir celui qui vient. Celui qui vient et qui est au-delà. Celui qui vient nous apporter quelque chose de nouveau. Le lendemain, il aperçoit Jésus qui venait vers lui. Donc il semble bien qu'il connaissait Jésus. Il aperçoit Jésus qui venait vers lui. Mais il connaissait Jésus d'une manière extérieure, pas d'une manière intime. On peut connaître Jésus historiquement, on peut le connaître de l'extérieur et on peut le connaître de l'intérieur. Et c'est justement ce qu'il y a de tout à fait nouveau, c'est que subitement, Jean-Baptiste va connaître de l'intérieur, mu par l'Esprit-Saint, le mystère de l'agneau. Il dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Je crois qu'il faut bien saisir ça. Et Jean souligne les deux aspects. Le lendemain, il aperçoit Jésus, donc il le voit. Il voit Jésus qu'il connaissait. C'est son cousin quand même. Ce serait bien curieux qu'il n'y ait pas eu de connaissance du tout. Sans voir trop ce qu'on dit dans certaines légendes apocryphes, n'est-ce pas? L'enfant Jésus jouant avec le petit Jean-Baptiste, vous savez bien. Et Jean-Baptiste ayant 6 mois de plus, évidemment, bat Jésus sur tous les terrains. Forcément, il a 6 mois de plus. Et il y a des petites femmes merveilleuses, des petites colombes qui viennent, qui s'approchent. Tout ça, apocryphe, hein? Bon, c'est de la légende. C'est très très bien pour peupler notre imagination, n'est-ce pas? Et pour faire fleurir notre dévotion. Mais c'est pas la foi. La foi ne nous dit rien sur la vie cachée de Jean-Baptiste, sur la vie cachée de Jésus et des rencontres possibles entre Jean-Baptiste et Jésus. On garde à Jérusalem le désert de Jean-Baptiste, vous savez bien. Le désert de Jean-Baptiste, c'est du reste très beau, le désert de Jean-Baptiste. Qui est gardé, je n'en sais rien si de fait il était là et qu'il a mené sa vie jusqu'au moment où il est parti prêcher au désert. Ce qui semble net, c'est que Jean souligne, hein, le lendemain, il aperçoit Jésus qui venait vers lui. Donc il aperçoit Jésus. Il ne dit pas, il aperçoit quelqu'un. Non, il aperçoit Jésus. Il dit, voici l'agneau de Dieu. Donc, il aperçoit celui qu'il connaissait, qui était son cousin. Et puis il découvre en lui, dans un regard nouveau, il y a une nouvelle expérience. Une expérience tout intérieure du mystère de Jésus. Il découvre l'agneau. Il y a un contraste de l'aspect historique, de la connaissance humaine qu'on peut avoir à l'égard de quelqu'un qu'on connaît. Et puis, l'expérience intime. Et c'est ce que nous faisons tous, cela. Nous avons une connaissance de Jésus par l'Évangile, une connaissance historique de Jésus par l'Évangile. Et puis, la grâce du Saint-Esprit, subitement, nous fait découvrir quelque chose d'autre. Et nous découvrons l'agneau. Ça, c'est la découverte intérieure de l'Esprit-Saint. On est pris, on est saisi de l'intérieur. Remarquez, hein, que Jésus ne va pas au-devant des Lévites et des prêtres. Parce que les Lévites et les prêtres n'auraient pas reconnu Jésus. Jésus ne va pas au-devant des Lévites et des prêtres. Jésus va au-devant de Jean-Baptiste. Je crois que c'est très important de comprendre ça. Parce que Jésus Il est le paraclet. Saint Jean nous le dit, hein, un autre paraclet. Donc l'autre paraclet, c'est ce que nous appelons l'Esprit Saint. Tandis que le premier paraclet, c'est Jésus. Et le paraclet, c'est celui qui entend le cri de l'enfant dans le désert. Et je crois que Jean-Baptiste, il est celui qui crie dans le désert. Et son cri est d'autant plus fort qu'il n'est pas reçu. Alors il est encore plus dans le désert. Je crois que Jean-Baptiste a connu par le passage des lévites et des prêtres, de ces pharisiens, il a connu, après leur départ, une pauvreté comme il n'avait encore jamais connue. C'est la pauvreté du prophète qui annonce quelque chose, qui dit quelque chose et qui n'est pas reçu. C'est ça la plus grande des pauvretés. C'est la pauvreté de celui qui affirme quelque chose dont il sait qu'il doit l'affirmer et que sa parole n'est pas reçue. Autrement dit, l'expérience de l'inefficacité de son témoignage, c'est la chose la plus rude pour le prophète, pour celui qui est témoin de la lumière. Pour celui qui est témoin de la lumière, c'est de faire que ce témoignage n'est pas reçu. Parce qu'alors, à ce moment-là, il connaît la pauvreté non seulement du témoin. Le témoin est toujours pauvre, puisqu'il est relatif à la lumière. Donc, il est relatif à un autre comme témoin. Mais en plus de ça, il connaît l'inefficacité de son témoignage. Et connaître l'inefficacité de son témoignage, c'est connaître il n'est rien. C'est au moment où Jean-Baptiste connaît la plus grande pauvreté que Jésus, le paraclet, entend le cri de l'enfant dans le désert. Le lendemain, il aperçoit Jésus qui venait vers lui. C'est Jésus qui va vers lui. C'est Jésus qui est attiré par le pauvre. C'est Jésus qui est attiré par la pauvreté du cœur de Jean-Baptiste. Cette pauvreté extrême du témoin inefficace et qui par le fait même est seul. Alors on comprend très bien cela. Le lendemain, il aperçoit Jésus qui venait vers lui. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Jésus vient vers lui et lui, éclairé par l'Esprit Saint, découvre que Jésus, c'est l'agneau de Dieu. Et l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Alors comprenons bien ici, hein, le témoignage de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste découvre l'agneau. Vous savez qu'en araméen, agneau et serviteur, c'est le même mot. Et vous savez bien que Jean-Baptiste, qui est lié à Isaïe, est donc lié aux grandes prophéties d'Isaïe. Il les connaît. La prophétie du serviteur inutile, la prophétie du serviteur douloureux, la prophétie de celui qui est comme l'agneau qu'on mène à la boucherie. Alors, serviteur et agneau, c'est le même mot. Jean écrit en grec, et donc il précise. C'est pas le serviteur, il ne dit pas « voici le serviteur de Yahvé, le serviteur de Dieu qui enlève le péché du monde ». Non, c'est l'agneau. C'est le bouc émissaire qui porte l'iniquité du monde. Celui qui est voué à être immolé, c'est l'agneau. c'est l'agneau de Dieu. Ce n'est pas l'agneau des hommes, c'est l'agneau de Dieu. Parce qu'il vient d'en haut pour porter l'iniquité du monde. Cette vision toute nouvelle de Jésus. Il est l'agneau de Dieu, donc l'envoyé de Dieu, et comme agneau, donc symbolise la miséricorde. L'agneau, c'est le symbolise de la miséricorde. C'est la douceur et l'humilité de l'agneau. Et c'est la miséricorde de l'agneau qui porte l'iniquité du monde, qui porte l'iniquité du monde pour l'enlever. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Celui qui porte toutes ses conséquences du péché, l'iniquité du monde. Et qui le porte pour, justement, sauver les hommes. C'est celui pour lequel moi j'ai dit, après moi vient un homme qui est passé devant moi, parce qu'avant moi il était. Donc on reprend ce qui est dans le prologue. Et c'est très beau ça. Parce que c'est à ce moment-là que Jean-Baptiste découvre la signification de son témoignage. C'est important ça de comprendre cela. L'Esprit Saint nous pousse au désert sans nous donner la signification de notre mission. Ceux qui savent trop bien la mission qu'ils ont, souvent ce n'est pas du Saint-Esprit. C'est comme ça. Vous savez, ceux qui disent « Je suis réformateur ». Attention, attention. Non, 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 non. Saint-Esprit n'envoie pas comme ça. Il envoie dans la pauvreté. Donc on ne sait pas. On ne sait pas. On saura chaque jour suffisamment, pas plus. Si on sait trop bien d'avance, attention, c'est peut-être l'imagination. Parce qu'il faut toujours faire grande attention quand quelqu'un dit « j'ai une mission ». Attention. Marie n'a jamais dit qu'elle avait une mission. « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Une mission, c'est toujours très très grave quand on dit ça. C'est très très difficile à savoir. Si on regarde l'Écriture, on voit beaucoup plus que l'Esprit Saint. Jean-Baptiste est quand même quelqu'un qui a une mission prodigieuse. Être celui qui doit fermer la maison. Pas commode comme mission de fermer la maison. Ouvrir une maison, ça va encore. Mais fermer une maison, c'est pas commode du tout. Il doit, il dit au peuple d'Israël, c'est terminé, il est là. Accepter de disparaître. C'est pas commode quand on a 2000 ans d'existence de disparaître, vous savez, c'est pas commode du tout. C'est parce qu'on est très enraciné. Les vieux arbres, ça meurt difficilement. C'est comme les vieilles personnes, ça meurt difficilement. Quand on a 20 ans, on meurt très très facilement. C'est très très facilement, on le sait très bien. Dans toutes les batailles, les jeunes meurent comme rien. Ils ont un élan extraordinaire, là, ça va. Tandis que les vieillards, ils sont très enracinés. Très enracinés, alors ils meurent difficilement. Ordinairement, l'agonie des vieillards, c'est quelque chose de très émouvant. Parce qu'on sent que l'âme est tellement dans le corps, vous savez, que ça part difficilement. Les racines sont très 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 fortes. Alors 2000 ans d'existence, le peuple d'Israël. Pas commode de lui dire, maintenant, c'est fini. Ils ont envie de prolonger leur vie, la survie. Continuer encore un tout petit peu. Et Jean-Baptiste est là pour fermer la maison. Fermer la maison, c'est vraiment ça qu'il doit faire.